RTL Info, le journal Guillaume Joly, bonsoir.
Bonsoir. Il y a pile 50 ans, la loi Veil était adoptée en France, donnant aux femmes l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. À la même époque, les débats sur l'avortement étaient relancés en Suisse par une affaire neuchâteloise. Témoignage dans ce journal. Le directeur de La Poste, Roberto Cirillo, démissionne. C'est ce qu'a annoncé le géant jaune aujourd'hui. Il était à la tête de l'entreprise depuis avril 2019. Une première pour Franjo von Almen. Le skieur bernois a dompté le Lauberhorn cet après-midi lors du Super-G de Wengen. Il signe son premier succès en Coupe du Monde. Les heures se suivent et se ressemblent dans le ciel de la région. Une couche de stratus couvre la partie basse de la région. Ce scénario se répétera demain. Les températures seront de saison. Le 17 janvier 1975, la France adoptait la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse portée par Simone Veil. Depuis la Suisse, les femmes de l'époque observent et s'enthousiasment de cette nouvelle liberté accordée aux Françaises. À cette période, l'avortement n'est pas interdit en Suisse, mais il était très restrictif, Claire Robert.
Dans les années 70, une double autorisation était nécessaire aux femmes désireuses d'interrompre leur grossesse. Une première, délivrée par leur médecin, et une deuxième, par un psychiatre, le tout dans des délais très courts. Claudine Stelly-Wolf avait 25 ans à l'époque où elle a entrepris ses démarches pour avorter.
Je suis allée voir un médecin, qui n'était pas gynécologue d'ailleurs, mais que je connaissais, qui était chirurgien. Et puis, il m'a dit que pour lui, c'était OK pour pratiquer cet avortement, mais il fallait un deuxième avis. C'était pas n'importe quel avis. À l'époque, il fallait que ça soit un psychiatre. Il fallait vraiment qu'on soit folle.
Face à la difficulté d'obtenir ces obligations, certains médecins suisses opéraient des femmes de manière illégale afin de leur donner un accès sécurisé à l'avortement. En 1970, à La Chaux-de-Fonds, trois médecins sont arrêtés à la clinique des Bluets pour ce motif, provoquant l'indignation chez les femmes.
Plusieurs médecins s'engageaient pour donner un accès à des avortements sécures aux femmes de la région. Et le fait que la justice poursuive des médecins qui essayaient de donner une sécurité aux femmes qui devaient se faire avorter, c'est apparu comme une injustice. Et donc c'est ça, ça a réveillé les luttes.
Les trois médecins sont condamnés en 1974 à un an de prison avec sursis et à une amende de plusieurs milliers de francs. Les femmes neuchâteloises et de toute la Suisse se mobilisent, relançant le débat sur l'intervention volontaire de grossesse. Claudine Stelly-Wolf.
On avait fait une pétition, il fallait signer. On était assise à un stand, il y a une petite dame tout en noir, assez âgée, qui passait devant avec son mari. On l'a interpellée pour lui expliquer ce que c'était, puis elle a dit « je signe ». Et son mari a dit « tu vas pas faire ça ». Puis elle a dit « alors non, j'ai assez souffert de ces histoires, je signe ». Et elle a résisté à son mari, c'était ça l'atmosphère. Tout d'un coup, les femmes se sont mises à parler de ce qu'elles avaient vécu.
Aujourd'hui, l'avortement est toujours condamnable selon le code pénal suisse. Le droit à l'avortement est donc reconnu, mais encore criminalisé. Selon Claudine Stelly-Wolf, les femmes sont encore à la moitié du chemin.
Ce témoignage de Claudine Stelly-Wolf est à retrouver sur notre site internet rtn.ch. La campagne pour les élections cantonales de mars prochain est lancée. L'alliance de droite, appelée l'alliance neuchâteloise, qui réunit le PLR, le Centre et l'UDC, a convié la presse ce matin. Outre les axes de la campagne, les trois partis ont annoncé le lancement d'une initiative populaire cantonale qui vise à une réduction progressive des impôts de 10% pour les personnes physiques d'ici à 2030. Plus d'informations sur rtn.ch. Un nouveau visage à la tête de Tourisme Neuchâtelois, Yannick Plassy deviendra le directeur de l'institution à partir du 1er août. L'homme de 37 ans succédera à Jan Engel qui partira à la retraite après avoir contribué au développement touristique de Neuchâtel depuis son arrivée en 1992, souligne un communiqué. Et puis travaux urgents dans les tunnels de la Vue des Alpes. L'ouvrage sera fermé cette nuit de 22h à 5h du matin sur l'axe N20 entre la jonction de Boudevier et le giratoire du Bas du Raymond. Des nettoyages liés au déclenchement des alarmes sont nécessaires selon un communiqué. Une femme a été retrouvée hier soir sans vie dans un immeuble d'habitation de la rue des Marchandises à Bienne. Elle aurait été victime d'un homicide, communique aujourd'hui la police cantonale bernoise. Une enquête d'envergure est en cours pour clarifier les événements. Les précisions d'Olivier Zano.
C'est hier soir vers 21h45 que la police a été avisée qu'une personne ne répondait plus depuis des jours. Arrivée à la rue des Marchandises, les forces d'intervention ont découvert une femme sans vie dans un appartement. La police scientifique, notamment, est intervenue sur les lieux pour établir les premiers éléments d'investigation et assurer la préservation des traces. La piste de l'homicide est pour l'instant privilégiée, mais l'enquête se poursuit. Un appel à témoins est lancé dans ce contexte. Il est notamment important de savoir si des personnes ont fait des observations suspectes ces derniers jours dans le secteur de la rue des Marchandises. Police et ministère public assurent que tous les renseignements donnés seront traités de manière confidentielle.
S'il existe des indices quant à l'identité de la défunte, son identification formelle n'a toutefois pas encore eu lieu. Roberto Cirillo tire sa révérence. Le directeur général de La Poste a annoncé aujourd'hui sa démission pour fin mars. Il sera resté 6 ans à la tête du géant jaune. Le président du conseil d'administration de La Poste, Christian Levrat, revient sur cette décision.
La première chose à retenir, c'est que Roberto Cirillo a été une chance pour La Poste. Il a énormément apporté à l'entreprise. Il nous a donné une stratégie qui nous permet d'affronter les défis auxquels on est confrontés, qui permettent d'éviter de transformer la Poste en un musée, de faire qu'on ait à l'avenir également un service public qui soit pertinent, qui tienne compte de l'évolution des besoins de notre clientèle. Il l'a fait pendant 6 ans, il l'a fait jour et nuit avec une énergie incroyable, dont je lui suis très reconnaissant. Il paraît compréhensible qu'après 6 ans, il souhaite prendre un peu de distance.
La Poste a déjà lancé le processus de recrutement pour trouver un nouveau directeur général. L'argent liquide ne disparaîtra pas de sitôt en Suisse. Près de 90% de la population refuse sa suppression en 2024 contre 72% l'année précédente. C'est ce que révèle une étude de Philoro. Les troubles géopolitiques et le renchérissement expliquent cet attrait, indique aujourd'hui le négociant en métaux précieux dans un communiqué. Et puisqu'on parle d'argent, le Conseil fédéral propose des solutions pour sortir de la spirale de l'endettement. Il a finalisé cette semaine son projet de révision de la loi sur la poursuite. Il propose 2 modifications pour assainir la situation financière des personnes surendettées. L'une vise à simplifier la procédure pour trouver un accord avec les créanciers. L'autre permet d'effacer les dettes par voie de faillite. Une possibilité entièrement nouvelle. Rémi Kammermann, juriste au Centre social protestant.
C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas dans le droit suisse jusqu'à aujourd'hui. On s'est inspiré de procédures qui existent en Allemagne et en Autriche. L'idée, c'est vraiment qu'un débiteur rentre dans une sorte de processus d'assainissement. Il s'annonce devant le juge de la faillite, qu'il soit ensuite prélevé de tous ses biens et ses revenus pendant 3 ans. Et s'il a passé cette épreuve, qui n'est pas une épreuve facile, avec succès, le reste, le solde de ses dettes sera effacé.
Des propos recueillis par Marie Vieumier, le projet doit maintenant passer le cap du Parlement. 235 millions d'euros, c'est le montant de l'aide que l'Union européenne va fournir à la Syrie et à ses pays voisins. Annonce faite aujourd'hui par la commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire d'urgence, Adja Labib. Ce financement doit permettre d'assurer les besoins de base de la population tels que le logement, la nourriture, l'eau potable, les soins de santé ou l'éducation, précise la responsable. Et puis le cabinet de sécurité israélien a donné son feu vert cet après-midi à l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Cet accord doit notamment permettre la libération de 33 otages en échange de plusieurs centaines de Palestiniens détenus par Israël. Il devrait initialement prendre effet dimanche midi.
Et à l'écoute d'RTN, il est 18h09.
Sport.
Un nouveau champion de l'Oberland bernois sur le Lauberhorn, Franjo von Almen a remporté le Super G de Coupe du Monde de Wengen cet après-midi. Le skieur du Simmental a devancé l'Autrichien Vincent Krischmayr de 10 centièmes et son coéquipier Stefan Rogentin de 58 centièmes. La fête ne pouvait pas être plus belle pour les 27 500 spectateurs de Wengen qui attendaient un nouveau champion du cru depuis Bruno Kernen il y a 22 ans. Franjo von Almen avait lui-même du mal à réaliser qu'il venait de signer sa première victoire en Coupe du Monde à la maison.
C'est un sentiment spécial, surtout ici à Wengen. C'est très beau avec l'ambiance, c'est fou, je n'arrive pas encore à réaliser. Ça viendra ces prochains jours, pour le moment j'essaye d'en profiter. C'est une des plus belles courses que tu peux gagner en Coupe du Monde pour un Suisse. C'est plutôt cool, même si c'est surprenant que ça se passe comme ça ici pour moi.
L'autre surprise de ce podium, c'est la 3e place de Stefan Rogentin. Le grison a violemment chuté mardi lors du premier entraînement sur le Lauberhorn et c'est dans la douleur qu'il a signé une belle prestation aujourd'hui.
Ich bin froh, dass ich heute überhaupt am Start stehen konnte und dann
Je suis heureux d'avoir pu participer à cette course. J'ai encore mal à la tête, par exemple, avec le casque. En course, je me suis mis dans le rythme après la tête de chien, donc je ne sens plus rien. J'ai eu de la chance et je suis reconnaissant de ce résultat. C'est bien allé en haut, mais ensuite, dans la deuxième partie, je suis rentré trop vite, ça a tapé fort. C'était pas idéal et donc ce résultat m'a surpris.
Très attendu lors de ce Super G, Marco Odermatt a signé la 7e place à plus d'une seconde du vainqueur. Le Nidwaldien n'a pas eu de bonnes sensations sur la piste.
C'était pas une course parfaite, je fais 2-3 petits faux et comme ça tu peux pas gagner. Et oui, Franjo était très très vite aujourd'hui et aussi Vince, alors comme ça c'est une 7e place, ça va. Bien sûr, je vais mieux, c'est comme ça, c'est pas très très mauvais, c'est une 7e place, alors ça va. J'ai vu Franjo au départ, je dis pour moi, bah, ça c'est très très vite, et difficile pour être plus vite comme lui, et comme ça, oui, il fait cette première victoire, c'est très cool pour lui.
Des propos recueillis par Stéphanie Wenker et traduits par Damien Piscopiello et Vincent Costet. Un quatrième Suisse a terminé dans le top 10 aujourd'hui. Alexis Monet a pris la 9e place. Demain, place à la descente à Wengen dès 12h30. Des pistes, on passe aux pelouses de la région sur lesquelles Neuchâtel-Xamax ne convainc pas. Le club de la Maladière s'est incliné en match amical contre le Stade Nyonnais cet après-midi. Les Rouges et Noirs ont perdu 2-1 contre le 8e de Challenge League. Menés 2-0 à la mi-temps, les joueurs d'Anthony Breza ont réduit l'écart dans le dernier quart d'heure grâce à Salim Benseguir. Xamax reprend le championnat vendredi prochain avec la réception de Stade Lausanne-Ouchy à 19h30 à la Maladière. Le Charity Game 2025 du HC La Chaux-de-Fonds revient. Il aura lieu dans 2 semaines au Mélèze, le vendredi 31 janvier, à l'occasion du derby roman de Swiss League de hockey sur glace contre Sierre. Ce sera la 4e édition de cet événement qui permet au HCC de jouer pour la bonne cause. Cette année, les abeilles ont choisi de soutenir la fondation des Biodes au Locle, qui s'occupe d'enfants défavorisés. Le président du HCC, Olivier Calam, se réjouit particulièrement de soutenir cette fondation.
Ben oui, puisque j'ai grandi sur les monts. Ils étaient scolarisés au collège des monts. J'ai moi-même été scolarisé au collège des monts. Donc ça a créé des liens aussi avec des élèves qui maintenant sont adultes et c'est un environnement qui m'est familier.
C'est un peu copier-coller par rapport à la 3e édition, cette 4e édition du Charity Game.
Alors il y a toujours l'identité du maillot, voilà, qui défend la cause. Et chaque projet est différent et c'est le but de ce Charity Game.
Il y aura de nouveau des puck collectors, des maillots mis aux enchères, ça c'est la recette qui reste.
C'est une recette qui a du succès, c'est des supports qui sont appréciés aussi du public, donc on ne change pas une équipe qui gagne.
Propos recueillis par Vincent Costet, vous pouvez découvrir le maillot spécial de ce HCC Sierre du 31 janvier sur rtn.ch et ces maillots portés par les joueurs ce soir-là seront ensuite mis aux enchères au terme du match.